Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. Je suis Karagir et aujourd'hui nous allons parler ni plus ni moins que d'un réservoir émotionnel qui serait enfoui au fond de nous. Le corps a plein de moyens, d'astuces et de secrets pour gérer les émotions. C'est un domaine aussi vaste que complexe et merveilleux à découvrir. Et parmi tout cela, il existe un réservoir émotionnel qui nous permet de gérer les trop-pleins émotionnels pour une bonne santé et un bon équilibre global, mais qui parfois peut nous jouer des tours et des détours. Alors pour éviter de tomber dans un piège qui pourrait bien nous prendre la tête, découvrons de quoi s'agit-il réellement. Dans cet épisode, nous allons découvrir les coulisses des émotions, et notamment la notion de réservoir émotionnel. Nous allons comprendre ce que c'est, quelle est sa raison d'être et ses mécanismes. Nous allons aussi parler de différentes mémoires et souvenirs que nous avons, et notamment les mémoires vives, et comment tout ce beau monde vient nous affecter, notamment quand nous avons pris conscience de l'influence de certaines mémoires et certains souvenirs dans notre vie, que l'on décide de s'en libérer par un parcours de développement personnel et thérapeutique, et que soudainement, on se retrouve avec des sortes d'envolées émotionnelles incompréhensibles. Alors que tout va bien, qu'il n'y a absolument rien à signaler, on se retrouve avec de la colère qui nous submerge de façon répétitive, plusieurs jours d'affilée. Ça vient de nulle part et on ne comprend pas. Et si ce n'est pas la colère, c'est la tristesse. Et soudainement, on a envie de pleurer. Le moindre truc, la moindre stimulation nous donne envie de pleurer. Et nous voilà que les larmes nous montent aux yeux et que l'on a à faire des efforts effroyables en société pour ne pas pleurer, car la situation ne justifie pas que l'on se mette à pleurer. Pourtant, d'où viennent toutes ces larmes-là? Ou, quand ce n'est pas la colère ou la tristesse, ça peut être la peur, beaucoup plus difficile à gérer, mais qui pourtant, soudainement, tout va bien. Et j'ai des montées de peur que je ne sais pas d'où elles arrivent et je me pose des milliards de questions. Et c'est là le piège dans lequel on peut tomber. C'est parce qu'on ne comprend pas ce phénomène-là que l'on peut se retrouver face à des prises de tête, des montées dans les tours, la roue du hamster mental qui prend le dessus. Et là, les amis, attention, car on peut se faire rentrer dans des cul-de-sac inutiles, tout simplement par une incompréhension d'un mécanisme qui pourrait être plus tout simplement normal. Du coup, si ce que je vous raconte là vous parle, nous allons nous intéresser à cet espace de l'intelligence émotionnelle qui est ni plus ni moins que ce réservoir que nous avons tous au fond de nous, mais qui fonctionne en coulisses et dont on méconnaît souvent l'existence. Si ce voyage vous plaît, cet épisode est fait pour vous. Mais avant de continuer, chers amis, permettez-moi de vous dire que le but de cette chaîne est de diffuser au plus grand nombre et gratuitement des clés et des pépites pour la transformation et la croissance personnelle. Nous croyons qu'il est possible de construire un monde meilleur et pour cela, nous contribuons à éveiller la prise de conscience de l'immensité de notre potentiel, ceci en partageant des clés concrètes et applicables. Nous voulons apporter des contenus positifs, constructifs, pédagogiques, humain et responsable, servi avec pragmatisme et une approche pratique qui donne toute sa place au bon sens et à l'expérience vécue. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de partager avec vous un comment pour vous permettre de faire et de passer à l'action concrète et pas juste de philosopher ou de nourrir le mental. Car nous sommes persuadés que le moment est venu de réinventer notre humanité et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Cette chaîne de podcast fait partie d'un projet de plus grande ampleur pour aller au cœur de l'humain et de son potentiel, appelé Conscious Media, le média pour une vie pro et perso en conscience. Et si vous avez envie de participer de façon active à cette aventure, n'hésitez pas à nous écrire à hello@konxus-media.com. Nous répondons à 100% de nos emails si vous avez des critiques constructives à faire, si vous avez des commentaires, si vous avez des idées à nous partager, des pépites, des trésors, voire même des thématiques que vous aimeriez nous voir traiter dans un épisode à part entière, n'hésitez pas à nous écrire, car avant tout et surtout, cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Alors, pour rentrer très vite en besogne, commençons par expliquer comment la médecine chinoise nous permet de comprendre les émotions. Car j'aime beaucoup le lien que cette médecine fait parce qu'elle rattache à chaque émotion des organes. Elle nous explique que tout excès d'une émotion peut affecter l'organe auquel elle est rattachée, mais aussi des organes environnants avec lesquels elle a des liens. Comment se tissent ces liens? Eh bien, tous ces liens-là sont expliqués dans la théorie dite des cinq éléments. Alors, ces cinq éléments seront une façon de symboliser les différentes énergies qui influencent notre santé et notre vie. Car, je le rappelle, l'une des caractéristiques principales de la médecine chinoise par rapport à la médecine occidentale allopathique, c'est que la médecine chinoise s'intéresse à l'énergie vitale, donc on appelle le qi. Et donc, tout tourne autour de la compréhension des équilibres et des déséquilibres de la circulation de cette énergie dite vitale dans notre corps. Ainsi, chaque élément illustre des caractéristiques particulières de cette énergie vitale. Alors, suivant les différents éléments, donc suivant les différentes typologies ou caractéristiques de l'énergie, on va venir affecter une partie du corps ou une autre, et on va avoir des relations que l'on dit de contrôle, de rétro-contrôle, on va avoir des relations d'alimentation et de destruction. C'est-à-dire que tous ces éléments-là s'alimentent, se rétro-alimentent, se contrôlent, mais aussi peuvent s'affecter et se détruire les uns aux autres quand l'équilibre n'est pas là. Voilà, j'arrête là toute la question théorique de la médecine chinoise, mais grâce à ça, on arrive à comprendre des liens et des relations qui existent entre les différentes émotions, et comment l'existence d'une émotion peut générer une autre émotion, et comment l'excès d'une émotion peut affecter un certain groupe d'organes en particulier, mais aussi peut entraîner des effets collatéraux néfastes sur d'autres organes. Et de là découle tout un ensemble de pathologies ou de déséquilibres physiologiques, émotionnels, mais aussi psychologiques. Du coup, une fois que je vous ai dit ça, j'ai pas besoin de vous dire beaucoup plus. Ce que nous devons comprendre, c'est que tout excès d'une émotion peut affecter la santé d'un organe. Mais, comme la nature est bien faite, le corps a trouvé ses astuces. Et donc, d'abord, les organes sont capables d'absorber les émotions qui leur sont reliées. Par exemple, le référentiel des cinq éléments dit que la colère est rattachée à l'élément bois et affecte le foie et la vésicule biliaire. Donc, ces organes-là sont en capacité d'absorber la colère. Mais quand la colère est en excès, elle va venir déborder et va venir affecter l'équilibre énergétique de ces 10 organes. Dit DITS, pas DIX. Donc, l'excès déborde, affecte les organes qui y sont rattachés, mais aussi les organes alentours qui, par la règle des 5 éléments, sont en exposition directe. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir par rapport au fonctionnement des excès émotionnels et de notre corps et comment les différentes émotions vont venir affecter différents organes par des excès. Donc, pour éviter toute atteinte à la santé d'un organe, dans un espace trop plein ou d'excès émotionnel, eh bien, nous avons un réservoir à émotions. Et pourquoi ne l'a-t-on jamais identifié avec la médecine traditionnelle occidentale? Eh bien parce que ce réservoir à émotionnel n'a pas de réalité matérielle. Il a une réalité pour la médecine chinoise, énergétique. Et ce réservoir à émotions, tout simplement, va venir absorber les excès des cinq émotions principales selon la médecine chinoise, à savoir la colère, la tristesse, la peur, la joie, aussi les ruminations. Au-delà du seuil de tolérance émotionnelle de l'organe, le surplus d'émotions est renvoyé dans le réservoir. Sauf qu'il y a un petit détail qu'il faut savoir. C'est que, on peut imaginer que c'est un très gros réservoir, mais pour remplir le réservoir, on a un goulot qui est plus ou moins large suivant les personnes. Et comme il a un certain diamètre, si l'excès d'émotion est trop important, eh bien, une partie va venir remplir le réservoir et une autre partie va déborder et va être renvoyée quand même aux organes que l'on veut protéger. Mais le réservoir joue quand même un rôle relativement important. Ainsi, ce réservoir sert à encaisser les excès et assure ainsi un équilibre énergétique des organes. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Mais tout ceci, c'est de la technique. Et une illustration pour essayer de comprendre une mécanique au fond de notre corps. Jusque-là, on n'est que dans la tête. On va bientôt comprendre comment tout ceci peut nous affecter au quotidien, notamment si vous êtes féru, passionné de développement personnel et que vous veillez particulièrement à vouloir retrouver un espace de paix intérieure, de calme et que vous vous donnez les moyens de progresser sur ce chemin de conscience. L'essentiel ici est de comprendre qu'il existe un réservoir émotionnel qui, au plus gros, est fait de colère, de tristesse et de peur. Ce sont les trois référentiels émotionnels que l'on retrouve dans d'autres descriptions par rapport à des réservoirs émotionnels. C'est-à-dire, c'est pas le terme qui est utilisé, mais ces trois émotions étant comme stockées à l'intérieur de nous sont retrouvées dans d'autres référentiels dans la psychologie occidentale. Donc du coup, pour un souci de cohérence, je vais me concentrer sur ces trois émotions car il s'avère aussi que ce sont elles qui se manifestent majoritairement. Maintenant que vous savez tout ça, c'est là que la partie commence à devenir intéressante et commençons à comprendre comment tout ceci peut nous influencer sur notre chemin car nous sommes là pour ça. Et pour cela, nous allons faire un petit détour par les souvenirs. Car il existe deux types de souvenirs. Les mémoires dites vives et les mémoires classées. Alors ça, c'est des termes que j'utilise tout à fait maison. Ok, donc si vous faites des recherches Google, mémoire vive ou mémoire classée, vous allez retrouver juste ce podcast. Donc c'est la façon que moi j'ai de les nommer. Les mémoires vives et les mémoires classées. Les mémoires classées, c'est quoi ? Elles sont un souvenir du passé qui est fini, qui révolue et qui est classé tout simplement. Il est rangé dans une bibliothèque, qu'il soit bon ou mauvais, on se rappelle, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et on sait qu'il a existé dans notre histoire, mais il n'a plus absolument aucun effet sur nous. Comme je disais, on sait qu'il était bon ou mauvais, on a plus ou moins envie de ressortir ce souvenir, mais son effet sur nous s'arrête là. Ce sont des souvenirs, des mémoires qui sont comme des photos en noir et blanc, classées dans un vieil album qui prend la poussière dans une étagère. Voilà, ça ce sont les mémoires classées. Les mémoires vives, c'est une autre histoire. Parce que ce sont des souvenirs du passé, mais qui restent encore vivants dans notre esprit. Peu importe leur ancienneté, quand elles se manifestent, elles sont encore puissantes et poignantes. Ce sont des mémoires qui réveillent un état psychologique et émotionnel fort, parfois même difficile à gérer. Parfois, c'est tout simplement, ça vous fait monter la moutarde au nez, ou tout simplement, mais bon, il réveille un état psychologique et émotionnel suffisamment fort pour nous affecter dans l'instant présent et pour prendre une bonne partie de notre bande passante. Je fais tout simplement référence à n'importe quel souvenir qu'il vous suffit de connecter pour que, tac, vous sentiez que il y a un truc qui se passe en vous, qu'il soit bon ou pas bon. Ça, ce sont des mémoires vives. Elles sont, par rapport aux mémoires du classé qui sont des photos en noir et blanc qui prennent la poussière, ici, les mémoires vives sont comme des films en couleur qui s'imposent à nous, mais qui, attention, pour tourner, ils ont besoin de carburant. Ok, le film, il ne tourne pas tout seul. Le film, il faut qu'on l'accroche, qu'on décide qu'on veut le voir, on va venir l'alimenter. Et le principal carburant de ces films est un carburant émotionnel. Et où est-ce que les mémoires vives trouvent leur carburant? Eh bien, dans le fameux réservoir émotionnel. Parce que c'est une cuve énorme d'émotions à disposition. Qui garde les émotions rattachées aux événements. Rappelez-vous, ce réservoir a absorbé les trop-pleins. Eh bien, pour pouvoir se réveiller, c'est là que la mémoire vive va aller chercher son carburant. Et le mental, qui vient se rajouter après, le petit monkey, comme je l'appelle, est l'étincelle qui maintient le moteur du allumé. Le moteur du film, on va dire le moteur du projecteur de film est allumé grâce à l'étincelle du mental. Et on a tout, on a un film, on a de l'énergie, on a du carburant et on a une étincelle pour faire tourner ce moteur-là aussi longtemps qu'il en faudra, tant que l'on aura décidé de faire tourner ça en boucle dans notre tête. Et ainsi, la boucle est bouclée. Bienvenue dans la roue du hamster émotionnel des mémoires vives. Qu'une fois lancée, on ne l'arrête plus. C'est pour ça que ces mémoires vives nous influencent au quotidien. Elles conditionnent nos choix, nos comportements, nos résultats, notre bien-être, notre santé, notre rapport aux autres et à la vie. Bref, elles nous enquiquinent chaque fois qu'elles ne sont pas positives. Car Dieu merci, nous avons des mémoires vives positives. Voilà, vous vous rappelez quand votre enfant est né, ce moment, cet amour, la première fois que vous avez écouté une échographie, aujourd'hui je me sens d'humeur parentale, eh bien, waouh, là ce sont de très très beaux souvenirs que vous avez. Et nous en avons tous fort heureusement dans notre vie de très beaux souvenirs, mais nous en avons d'autres qui le sont un peu moins. Donc certaines mémoires vives nous rallument, nous donnent plein d'énergie, d'envie et d'entrain, et d'autres mémoires vives viennent quand même nous savonner la planche, elles sont un peu moins bienvenues. Or, quand on prend conscience de l'importance des mémoires vives et de leur influence, alors on décide un jour que l'on en a assez. C'est fini. J'en ai marre d'être influencé par mes histoires d'enfance, par mes histoires d'adolescence. J'en ai marre de me traîner le boulet de cette expérience professionnelle traumatisante que j'ai vécue lors de mon premier boulot. J'en ai marre de me traîner les poids de mon divorce. J'en ai marre. Aujourd'hui, je m'occupe de moi et je vais me libérer de tout ça. Et j'entame un parcours de développement personnel, notamment accompagné d'un parcours de thérapie. Et c'est là que commence l'aventure. Quand on prend conscience de tout ça, on entame une thérapie, qu'elle soit longue ou courte. Alors, on va pas rentrer dans le débat parce qu'on pourrait en faire tout un épisode. Mais moi, dans ces cas-là, je suis surtout partisan des thérapies courtes. Parce qu'elles permettent de conscientiser, mais surtout d'assurer des effets immédiats à court terme. Aller droit au but et prendre en compte toutes les dimensions de l'être. Pas que la mentale, qui parfois est absolument incapable de saisir la source d'un problème. Mais on pourrait débattre longtemps. Moi, je suggère les thérapies courtes, mais ceci étant dit, vous pourrez aussi choisir des thérapies longues. Chacun défendra son école. Ce n'est pas le but de cet épisode. On va tout simplement dire que vous vous êtes mis en route, vous avez entamé une thérapie qui vous permet de vous libérer d'un paquet de poids du passé. Mais grâce à ce travail, il y a un petit tour de passe-passe qui se cache derrière quand il s'agit de la gestion de nos émotions qui pourrait vous jouer justement des mauvais tours. Alors parlons justement de l'effet d'une thérapie et de ce petit tour de passe-passe qui se cache derrière la ligne de flottaison. Vous entamez une thérapie et étape par étape, comme si vous peliez un oignon, vous vous libérez des mémoires vives qui vous enquiquinent la vie et vous allez les classer. Vous allez les mettre dans cette étagère avec les albums photos noirs et blancs qui prennent de la poussière et que vous laissez là parce que vous n'avez plus besoin de les sortir ni de les ressasser. Ainsi, tous les conditionnements cités tout à l'heure rattachés aux mémoires vives arrivent enfin à un terme. Vous vous sentez léger ou légère, vous vous sentez renaître. Le processus thérapeutique lui-même, il est en dents de scie, avec ses hauts et ses bas. Mais une fois qu'il est fini, waouh, quelle libération! On est un homme neuf, on est une femme neuve. Et là, on se retrouve plein de lumière à l'intérieur de soi, léger et allégé. Alléluia! La vie est belle! Et c'est pour ça que l'on fait des thérapies. On se libère des mémoires vives qui nous enquiquinent, on retrouve une vie normale non conditionnée, on s'est donné le droit de se libérer, mais ce n'est pas pour autant que le parcours est fini. La vie se poursuit et notre croissance personnelle aussi. Et là arrive ce fameux éventuel petit tour de passe-passe qui bien pourrait nous jouer des tours. Excusez-moi la redondance qui fait des tours. Je parle d'un effet de purge émotionnelle qui pourrait s'en suivre. Au début, le corps, il est content de ne plus avoir à subir toutes ces tensions. Il est ravi de ranger les mémoires vives. Allez, bam! Il est tellement plus facile de vivre avec des souvenirs classés, de les laisser prendre de la poussière dans un coin sans qu'ils nous affectent. Mais, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas pour autant que le travail est fini. Maintenant que les mémoires vives ne nous enquiquinent plus, il y a une intelligence intérieure, notamment énergétique et émotionnelle, qui fonctionne en pilote automatique et qui, maintenant qu'on lui a libéré de la bande passante, va vaquer à d'autres choses. Et comme le travail n'est point fini, le moment arrive de libérer un peu le réservoir émotionnel qui, depuis trop longtemps, c'est-à-dire toute une vie, accumule des miasmes émotionnels. Mais comme notre bande passante, cette partie d'intelligence émotionnelle et énergétique intérieure et autonome, était complètement accaparée par la gestion de tous les espaces émotionnels, notamment ceux rattachés aux mémoires vives, eh bien, ben, ce travail-là de nettoyage, on ne l'a pas fait. Bon, le moment est venu de faire la vidange de notre cuve émotionnelle. Et puis un jour, vous continuez votre parcours de développement personnel et soudainement, vous commencez à pleurer sans raison. Vous êtes comme submergé par cette émotion de tristesse. Les pleurs vous envahissent pour rien ou pour un rien. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Il n'y a rien qui justifie ces pleurs. Pourtant, vous êtes submergé par la tristesse. Vous vous dites alors qu'il y a un problème. Forcément, on pleure pas parce qu'on pleure. Vous dites que vous êtes peut-être très dépressif et que vous ne le savez pas. Ou qu'il y a peut-être un traumatisme enfoui, non conscientisé, qui refait surface sans que vous soyez capable de le comprendre. Ou que votre corps essaye de vous dire quelque chose, il vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bref, si je pleure, comme ça sorti de nulle part, ça veut dire que ça ne va pas. Et que probablement j'ai des œillères, c'est ce que l'on se dit. Et là, le mental, il a tout le terrain fertile pour s'emballer et se faire tous les films de la Terre. Alors que tout va bien, qu'il n'y a rien à signaler aux alentours. Mais à cause de ces pleurs, on va se donner des raisons pour que ça n'aille pas. Et le problème est là, c'est cette construction mentale. Mais là je parle de pleurs, mais si ce ne sont pas les pleurs et c'est de la colère. Alors que vous vous connaissez plutôt stable émotionnellement, dans les deux cas, hein, pleurs ou colère, vous êtes plutôt stable émotionnellement dans la vie de tous les jours, voici que soudainement vous avez des grosses montées de colère, au moindre détail, des envies d'explosion, au moindre truc qui... Parfois même vous remarquez que vous êtes en colère, un point c'est tout, je suis en colère, tout simplement, comme les gamins ils disent aujourd'hui, je suis colère, il n'y a pas d'explication, je suis colère, et vous avez une envie de crier, de frapper, de secouer, de tout casser, et sans raison. Car tout va bien autour de vous, mais c'est pourtant plus fort que vous. Mais quelle envie de crier, bon sang! Et vous vous dites qu'il doit bien y avoir des raisons. Alors vous les cherchez. C'est pas normal, alors il doit bien y avoir quelque chose qui me met en colère comme ça. Et la moindre petite bête deviendra coupable de tout ça. Et là, encore une fois, le mental, youhou, il va se donner un corps de plein cœur, il va pouvoir s'emballer et se faire encore des films. Alors que, je le répète, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais, à cause de ces colères, vous allez vous donner des raisons et vous convaincre que ça ne va pas. Dans ce cas-là aussi, le mental pourrait vous jouer un tour. On en parlera tout à l'heure. Mais je continue dans mes exemples. Quand c'est peut-être pas la tristesse, c'est peut-être pas la colère, mais c'est la peur. Et là, vous vous sentez envahi par des peurs. Soudainement, sans raison, sorti de nulle part, la peur vous envahit. Vous ne comprenez rien, mais vous êtes rempli de peur. Et ça monte à vous. Pourquoi ? D'où vient cette menace ? Que se passe-t-il ? Mon intuition serait-elle en train de me prévenir ? Que va-t-il se passer ? Pourquoi ces peurs soudaines ? Et plus les peurs sont fortes, plus on psychote. Parfois, ce sont des vagues qui soudainement se prennent à vous. Et la peur étant l'émotion la plus difficile à gérer, car elle est en lien direct avec notre instinct de survie, plus ces vagues issues de nulle part sont fortes, plus on cède au risque de cette peur panique et à des pics de stress difficilement contrôlables. Et encore une fois, dans cette situation aussi, on ne comprend pas, on essaye de comprendre, le mental rentre en jeu, et là, c'est parti, on va se faire des films, et se donner des raisons pour que ça n'aille pas. Maintenant, avant de continuer, si j'ai donné des exemples aussi précis, c'était tout simplement pour que, si ça vous parle, vous puissiez éventuellement découvrir quelque chose dans cette histoire de réservoir émotionnel. Mais avant de continuer, il faut dire que ceci n'est pas le lot de tout le monde qui fait des démarches thérapeutiques et de développement personnel. Fort heureusement. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Mais quand même, il est bon de savoir que ça pourrait vous arriver. Car beaucoup de personnes subissent ce genre de revers et, ne sachant pas le gérer, tombe sans le savoir dans le grand piège à éviter. Je vous l'ai cité, mais donnons-lui un peu plus de place. De quoi s'agit-il réellement ? Vous vous êtes libéré des mémoires vives, ça c'est génial. Puis un jour, soudainement, vous subissez un débordement émotionnel. Et comme vous ne savez pas l'expliquer, vous cherchez à lui donner une explication. Le mental s'emballe, il prend le dessus, et là où il n'y avait rien, vous créez une histoire de toute pièce. Et là, vous vous donnez une raison de ne pas être bien. Dit autrement, vous vous inventez une mémoire vive. Et le mental étant tellement puissant qu'il fait sa création à merveille. J'ai mis un Q, il fallait pas. Le mental étant tellement puissant, virgule, il fait sa création à merveille. Et là, vous êtes reparti pour un tour. C'est comme si vous aviez reculé. Mais la difficulté avec ce tour-là en particulier, c'est que vous vous créez une mémoire vive qui est plus difficile à déprogrammer que celle que vous aviez travaillée en thérapie, car celle-ci, vous l'avez créée de toutes pièces. Et si vous l'avez créée une fois, vous pouvez la faire et la refaire plusieurs fois. Vous qui vous étiez libéré des sacs à dos de vos mémoires vives, voici que vous vous êtes alourdi d'un nouveau poids inutile dont vous auriez pu vous passer. Exemple. Je vais vous parler de mon propre parcours et comment je me suis retrouvé confronté à ce fameux réservoir émotionnel et sa purge. Et je vais vous parler de peur. Et tout ça est la compréhension ex post que j'ai pu faire ensuite grâce à tout le travail de rééquilibrage, tout simplement, grâce à la médecine chinoise, à la pleine conscience, à la thérapie, à la psychologie, etc., etc. Et finalement, réussir à comprendre, et là je vous le mets en quelques mots, un parcours particulièrement chaotique, car je l'ai découvert, comme dirait l'autre, à chaque fois je fais la même bague, à l'insu de mon plein gré. Dans mon parcours, j'ai eu un parcours dans les exports extrêmes. Et c'était ma passion. J'ai dédié une grande partie de ma carrière à vivre le surf, le snowboard et les sports dits extrêmes. Alors, je n'étais pas sportif de haut niveau, mais je vivais ces sports-là avec des sportifs de haut niveau. Donc, dans des situations qui souvent dépassaient mon niveau de compétence, alors que ces sportifs, eux, étaient très tranquillement. Bref, j'ai eu une vie qui était dédiée à dépasser mes peurs. C'était la culture dans laquelle nous vivions. Nous aimions encaisser des peurs, parfois monumentales, à la limite de la panique, car le but recherché était justement d'affronter nos propres limites et les limites du sport. C'était très stimulant, mais ce que je ne savais pas, c'est que d'année en année, de sortie en sortie, je remplissais mon réservoir émotionnel de peur, car je faisais subir à mon corps des énormes excès émotionnels. Mon réservoir était plein à craquer et je l'ai rempli pendant des années. Et puis un jour, j'ai fait un burn-out, j'ai entamé un processus de développement personnel et thérapeutique, et un jour après tout ça, boum, il a commencé à se nettoyer. Et là, j'ai commencé à avoir des peurs qui sortaient de nulle part. J'étais là, soudainement, j'étais envahi de peur. Une sensation complète de perte de contrôle. Heureusement, j'avais à disposition des outils que j'avais découverts grâce au burn-out. Notamment l'observation des émotions, l'observation des pensées et d'autres outils d'intelligence émotionnelle et énergétique. Dieu merci, parce que sinon, j'aurais pensé que je devenais fou. Mais le piège principal dans lequel je suis tombé, c'est que le mental a cherché à tout expliquer. Et comme je ne savais pas d'où venaient ces peurs, j'ai commencé à me faire des films et je me suis imposé un véritable calvaire. Car je me faisais des histoires pour justifier le fait que j'ai aussi peur. Cette peur alimentait des nouvelles peurs. Les histoires que je me racontaient de nouvelles histoires. Et je commençais à tourner en boucle sans explication. Et partout où j'allais, personne ne savait me dire autre chose que « Iker, n'accroche pas tes peurs, laisse-les partir ». Et ça, tu l'entends toujours. Souvent, hélas, quand on est dans un espace émotionnel difficile à gérer, on te dit « Non, mais laisse faire, lâche prise. » Non, mais t'es gentil, mais je suis pas en train de lâcher prise juste une pensée qui me traverse l'esprit parce que je dois aller acheter mon pain à la boulangerie. Je suis en train d'être envahi par des peurs, paniques. Comment je fais pour gérer ça? Bon sang, je ne sais pas le gérer. Lâche prise. Ça m'énervait que je n'en pouvais plus. Ce qui continuait à tourner en boucle, jusqu'au jour où enfin j'arrive à comprendre, m'explique, Iker, c'est normal. Tout ce que tu as fait subir à ton corps émotionnel, tout ce que tu as fait subir à ton corps énergétique, maintenant que tu lui laisses la place de se libérer, eh bien il est en train de la prendre. Et là tu subis un phénomène de purge énergétique et émotionnelle, c'est juste ça. Donc effectivement, il suffisait de laisser passer, de lâcher prise, de ne pas accrocher. Mais quand tu ne sais pas pourquoi tu subis ça, ton mental, à juste titre, essaye de tout expliquer. Alors que quand on te dit finalement, écoute Iker, c'est juste une purge, c'est pas agréable, dis-toi que c'est normal, que ça va passer, cultive un certain nombre d'états, on en parlera tout à l'heure dans la partie pratique, cultive certains espaces, favorise un retour au calme et tu vas voir que ces espaces de purge émotionnelle sont temporels, passagers et qu'ils ne vont pas te pourrir la vie indéfiniment. Prends conscience que quand ils partent, c'est un nettoyage, ils sont juste là de passage. Quand ils te traversent, tu les vois te traverser. Mais une fois qu'ils sont dehors, ils sont dehors, ils n'ont pas d'autre rôle que juste quitter ton réservoir émotionnel. Si j'avais compris ça, je n'aurais pas du tout vécu cette période qui a duré 6 mois de calvaire. Je vous jure, 6 mois de calvaire. Ça aurait été très différent. Et ce que je m'apprête à vous expliquer maintenant sur les mécanismes du réservoir a aidé de très nombreuses personnes à qui j'ai pu raconter cette histoire. Donc j'espère que ceci vous aidera vous aussi si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, ou voire mieux encore que vous vous rappellerez d'avoir écouté ce podcast le jour où éventuellement vous aurez un phénomène de purge émotionnelle. Mais pour mieux le comprendre, parlons du mécanisme du réservoir. Le rôle de ce réservoir, comme je vous l'ai dit, est d'absorber les trop-pleins de notre vie émotionnelle. Mais arriver à un certain stade de développement personnel, thérapeutique ou tout simplement de saturation, le réservoir cherchera à se purger. Et pourquoi je dis tout simplement de saturation? Parce que beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai parlé qui subissaient ce genre de situation sortaient d'un épisode de burn-out. Et l'épisode de burn-out lui-même était... ils étaient arrivés à un terme, on va dire, de saturation complète globale, notamment aussi de leur réservoir émotionnel. Et ils se seront retrouvés avec tout simplement la saturation qui a amené ce phénomène de purge qui était difficile à gérer. Donc, mais dans la plupart des cas, ce phénomène a lieu quand on décide soi-même de commencer à faire du nettoyage. Bref. Arrivé à un certain stade, le réservoir va chercher à se purger pour faire de la place pour de nouvelles émotions futures. À mon avis, et vous prenez ça de façon très, très prudente, c'est parce que ce n'est que mon avis, donc c'est très subjectif, donc je vous le livre, mais ce n'est que mon avis, donc à contraster. À mon avis, ceci est une étape du chemin d'éveil de conscience et du chemin d'éveil spirituel. C'est une étape de dénuement qui nous permet de toucher à l'essence pure de l'être, ou du moins nous rapprocher d'elle. C'est une étape que tout le monde pourrait traverser, et que tout le monde probablement traverse, c'est pour ça que je dis, voilà, ce n'est que mon opinion, que tout le monde traverse dès que l'on entame ce genre de chemin, et qui peut se faire de façon plus ou moins spectaculaire. C'est pour ça que on a l'impression qu'on n'avait éventuellement pas traversé, que ça touche pas tout le monde, mais ça touche à tout le monde suivant, mais sauf que à des degrés différents de spectacle, on va dire. C'est plus ou moins waouh. Et tout ceci dépend du niveau de remplissage du réservoir et de l'intensité des émotions qu'il stocke. Ainsi, pour certains, ça va être un nettoyage doux, par étapes successives, qui mène à des journées avec plus, des journées un peu moins, des hauts et des bas, et des moments un peu chafouins, et des pleurs, et des ci, des ça. Mais bon, ça reste relativement simple à traverser, ce nettoyage doux, parce que le réservoir n'était pas trop plein, ou que la teneur des émotions qui étaient à l'intérieur du réservoir, des énergies émotionnelles, n'était pas non plus brutale. Donc, du coup, la purge se fait de façon douce. Et donc, ce dont je vous parle aujourd'hui passe plus ou moins inaperçu. Mais pour d'autres personnes, c'est comme un nettoyage au Karcher. Ça peut être désarçonnant, avec des moments même de perte de repères. Et ces personnes-là, elles subissent la situation d'une façon un peu plus marquée, parce que c'est beaucoup plus sensationnel. Quand il y a purge, on peut le reconnaître grâce aux caractéristiques suivantes. D'abord, vous allez reconnaître une vidange émotionnelle sans raison. Premier point important, c'est toujours la même émotion qui revient, tristesse, peur ou colère. De façon plus ou moins intense, mais de façon récurrente. C'est-à-dire que vous allez avoir des montées de colère, des montées de peur ou des montées de tristesse de façon régulière, plusieurs fois par jour ou plusieurs jours d'affilée. Ça peut durer des semaines, voire des mois. Mais le premier point caractéristique, c'est que c'est la même émotion qui est là, parce que c'est une purge de cette émotion. Et le réservoir ne se nettoie pas de toutes les émotions en même temps. Il fait ça par étapes, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est une émotion qui revient régulièrement. Ce sont aussi, deuxième point, des états émotionnels variables et parfois exagérés, suite à la moindre stimulation. Alors, on peut être tout simplement submergé par une situation anodine. Vous entendez une phrase, vous regardez un truc dans un film, et voilà que, sans pouvoir rien contrôler, vous avez l'émotion qui vous submerge, et vous devez faire de très gros efforts pour garder la posture. Surtout quand vous êtes en société avec des gens qui vous entourent et que vous ne voulez pas que soudainement, dans une situation qui n'a rien à voir, vous avez un excès d'émotion, vous avez envie de pleurer d'émotion, et parce que vous êtes très touché, vous êtes attends, je suis à table, elle vient de rien dire de particulier, et là, je vais pas me mettre à pleurer parce que c'est complètement hors cadre. Et donc, vous faites des gros efforts pour contrôler cette situation. Souvent, on fait recours à la fameuse chape de béton. On essaye de bien tasser tout ça au fond de nous pour éviter que ça nous submerge. Donc, deuxième point, des états émotionnels variables, parfois exagérés, suite à la moindre stimulation. Et outre ça, dans l'ensemble, troisième point important, tout va bien. Il n'y a rien à signaler. Ceci est un indicateur très important. Car sinon, les mêmes caractéristiques que je viens de décrire peuvent être celles d'un déséquilibre émotionnel. Et ça n'a rien à voir avec une purge. Donc, ne nous trompons pas. Alors, comment vous savez que vous êtes dans un contexte de déséquilibre émotionnel et pas de purge? Eh bien, quand c'est un déséquilibre émotionnel, dans l'ensemble, ça ne va pas. On a une sensation de déséquilibre sans trop souvent savoir te dire d'où elle vient. On a de la tension, des états nerveux affectés, on est survolté, on a la sensation d'être la sensation aussi d'être dépassé. On vit des montagnes russes émotionnelles en tout genre. On peut faire un tour à 360 degrés des émotions, parfois même en un jour, avec des jours hauts, des jours bas, voire même des moments dans la journée hauts et bas. Ça, ce sont les caractéristiques d'un déséquilibre émotionnel. Et il est important de faire la différence entre les deux. Car si c'est une purge, vous devez tout simplement laisser passer la purge, ça va aller bien. Vous allez avoir ensuite, on va vous raconter les outils dont vous pouvez vous servir pour favoriser cette purge-là. Mais voilà, c'est juste un état transitoire de nettoyage. Mais si c'est un déséquilibre émotionnel et que vous ne faites rien et que vous vous dites que c'est une purge émotionnelle, le déséquilibre émotionnel, il ne va pas se résorber en tant que tel. Et donc, il est nécessaire de lui apporter une attention particulière qui est différente de celle d'une purge émotionnelle. Une fois que j'ai dit tout ça, vous comprenez pourquoi il est important de faire la différence entre les deux. Mais il est important de savoir aussi que les purges ou les vidanges du réservoir émotionnel se font par étapes. Et souvent, alors je ne dis pas que c'est inscrit dans le marbre comme ça, je parle tout simplement à partir de mon expérience, de l'observation de ce que j'ai pu voir chez moi ou chez d'autres personnes, de ce que j'ai pu lire dans la littérature psychologique, elles se font par étapes. D'abord la colère, ensuite la tristesse, et on finit par la peur. Et c'est la dernière, et c'est souvent cette émotion-là qui est la plus difficile à gérer, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, elle touche à notre instinct de survie. Bon, c'est souvent dans ce sens-là, colère, tristesse et peur, mais ce n'est pas une règle qui est inscrite dans le marbre, ok? Dans la durée, c'est l'autre point extrêmement important, si vous êtes dans un phénomène de purge et que vous avez beaucoup d'émotions fortes à nettoyer, ce qui était mon cas, parce que j'avais vécu une vie d'export extrême qui donc m'amenait à vivre des émotions en tout genre à l'extrême, que ce soit de la colère, de la tristesse ou la peur, et tout ça étant rattaché au sport que nous vivions. La peur, je vous l'ai expliqué. La tristesse, si vous vivez entouré de personnes qui dédient leur vie au sport extrême, vous êtes dans un contexte où vous savez que chaque année, vous allez perdre des amis. Parce que ces sportifs de haut niveau font du flirt avec la mort leur profession. Et vous savez qu'une avalanche, qu'un accident regrettable va emporter tôt ou tard la vie de l'un de vos proches ou la vie de quelqu'un que vous connaissez. Donc vous êtes très régulièrement confronté à l'émotion forte de tristesse. Et forcément aussi, quand vous vivez des moments forts comme ça, vous êtes aussi confronté à des colères très fortes, que ce soit parce que quelqu'un vous a mis en danger ou tout simplement parce que vous-même vous êtes mis en danger, vous n'avez pas été capable de faire certaines choses. Bref, les espaces de colère sont aussi des espaces très présents face à soi-même et face aux autres aussi. C'est la vie de tous les jours aussi qui se mêle à tout ça. Donc, si vous avez des émotions très fortes, la purge se fera de façon sensationnelle sur les trois émotions. Si vous avez des émotions moins fortes à purger, une d'elles à purger, peut-être que l'une pourra être plus sensationnelle qu'une autre. Bref, chacun son parcours, chacun sa vie, ça affectera le type éventuel de purge que vous pourrez faire. Mais, dans la durée, si vous avez une purge émotionnelle, il va se passer par diverses étapes, une étape de nettoyage d'une émotion, ensuite d'une autre et ensuite d'une autre. Et ça peut s'étaler dans le temps. Si vous êtes en période de purge, vous allez par exemple traverser d'abord une purge de colère et une fois qu'elle est finie, soudainement c'est une purge de tristesse. Et dans la durée, ça peut donner l'impression d'une grande instabilité émotionnelle. Et ce n'est pourtant pas le cas. C'est juste que le réservoir se vide par étape. Donc, vous allez avoir une étape dans laquelle vous allez vider des montées de colère. Après, ça va s'apaiser. Suivi d'une étape éventuelle où vous allez avoir des montées de tristesse. Après, ça va s'apaiser. Et pour finir, suivi d'une période éventuelle où vous allez avoir éventuellement des montées de peur. Comme je vous l'ai dit, ça peut passer de façon plutôt inaperçue si ces émotions qui remontent ne sont pas très puissantes ou de façon un peu plus spectaculaire. Ça dépend, comme je le disais tout à l'heure, je le répète, ça dépend de votre parcours. Et comme ça dure dans le temps, le mental peut encore se saisir de la situation. Parce qu'on se dit quand même, cette instabilité émotionnelle dure depuis trop longtemps, c'est QFD, ça veut dire que j'ai un problème. Et pourtant, vous n'êtes que dans le cas d'une vidange, d'une purge émotionnelle. Alors, si c'est votre cas et que vous reconnaissez dans ça, ou que ça pourrait vous arriver, que pouvez-vous faire? Finissons maintenant ce podcast avec la partie pratique, comme nous avons pris l'habitude de le faire à chaque fois. Comment vivre en paix une vidange ou purge émotionnelle? Étape numéro 1. Vous devez reconnaître l'état dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes face à une vidange ou une purge, appelez-le comme vous voulez, ou est-ce que vous êtes face à un déséquilibre émotionnel? Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, étape 2. Si vous êtes dans le cas d'une purge émotionnelle, la première chose que vous allez chercher, c'est apaiser votre mental, parce que c'est votre ennemi numéro 1, le petit monkey qui va se saisir de la situation et va vous raconter des histoires qui n'ont pas lieu d'être. Pour cela, la pleine conscience et les exercices de pleine conscience vont vous apporter 3 clés essentielles. La première, elles vont vous apprendre à observer les pensées. La deuxième, à observer les émotions et à prendre du recul avec ces dernières pour pouvoir cultiver, troisième avantage, une qualité de présence détachée de l'environnement mental et émotionnel. Ce qui vous permet de vous laisser traverser par ces états-là sans qu'ils vous affectent. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous inviter à écouter les tout premiers épisodes de cette chaîne qui tournait autour de la notion de cultiver le bonheur, notamment l'épisode 2, faire la peau aux pensées négatives, et l'épisode 3, au revoir émotions négatives. Je vais vous inviter à écouter ces épisodes, ça vous donnera plus de contexte sur l'observation des émotions. Mais quand il s'agit de qualité de présence, je vais vous inviter à écouter un épisode un peu plus récent qui est ni plus ni moins que l'épisode 46, la qualité de présence, secret vers tous vos potentiels. Et là, vous aurez plein de ressources pour pousser plus loin la compréhension des ressources qui sont à votre disposition pour cette étape numéro 2. Si vous ne connaissiez pas ces épisodes, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné. Alors abonnez-vous à cette chaîne. J'ai encore plein de pépites à partager avec vous, à raison de une par semaine. Et si vous voulez contribuer sans dépense, de façon totalement gratuite, mais vous voulez contribuer à notre effort de divulgation, il y a 2 choses que vous pouvez faire. La première, c'est nous laisser une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Plus nous aurons d'étoiles et de commentaires positifs sur ces plateformes, plus ces dernières vont nous promouvoir pour que nous soyons découverts par le plus grand nombre. Ça aidera la promotion et la divulgation de ces messages. Et le meilleur de tout que vous puissiez faire, si vous aimez ces épisodes, si vous pensez qu'ils pourraient parler à des gens de votre entourage, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Ça, c'est la meilleure façon de construire de façon organique une chaîne de podcast, c'est par la recommandation. Alors, si vous aimez et vous voulez faire votre part de colibri dans cet effort de divulgation qui est le nôtre, s'il vous plaît, faites ces choses-là pour nous. Ce sera une façon de vous engager avec nous et de faire une preuve de gratitude. Je ferme la parenthèse. Je continue, nous étions dans l'étape 2. Donc, si on est dans une purge, on va aller apaiser le mental avec l'observation des pensées, l'observation des émotions, épisode 2 et 3, et on va venir cultiver la qualité de présence, épisode 46. Ainsi, vous pourrez accueillir l'événement comme part d'une simple purge. Voilà, vous comprendrez que ce sont juste des émotions brutes qui sortent. Elles n'ont pas de mémoire vive qui leur est rattachée. Alors vous laissez l'émotion vous traverser, sans l'accrocher, en cultivant l'espace entre vous et l'émotion et en cultivant votre qualité de présence. Ça, c'est la grande mais essentielle clé pour traverser en paix une purge émotionnelle. Mais dans les deux cas, que vous soyez dans une purge émotionnelle ou dans un déséquilibre émotionnel, moi, je vous conseille d'aller voir un professionnel, d'aller voir un thérapeute pour une aide extérieure qui puisse vous guider et vous donner des clés. Car les purges sont des situations difficiles à gérer tout seul ou toute seule, mais aussi les déséquilibres émotionnels, c'est encore plus difficile, eux requièrent à tous les coups l'intervention d'un thérapeute si vous voulez les traverser en douceur et résoudre d'une fois pour toutes ces déséquilibres qui vous enquiquinent la vie. Donc, même si vous avez identifié que vous êtes dans une purge, Moi, je vous conseille d'aller voir un thérapeute pour vous donner cette aide qui va vous aider à traverser cette étape-là, importante dans un chemin d'éveil et de conscience de soi, pour la traverser en paix, sans prise de tête. Elle durera très peu de temps, je vous assure, c'est un très 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 bon conseil. Mais maintenant que je vous ai dit ça, nous avons l'étape 3, qui est probablement l'étape la plus belle. Parce qu'en étape 3, une fois que vous avez appris à prendre ce recul avec l'observation des pensées, des émotions, que vous avez compris que vous devez tout simplement laisser traverser ces émotions-là parce qu'elles sont tout simplement elles sont en train de vous quitter, vous allez en plus, étape 3, cultiver la paix intérieure. Car les vidanges et les purges successives mènent à un apaisement émotionnel profond. C'est un espace de paix intérieure et de détachement qui émerge. On arrête de subir les émotions et les situations comme avant. Il y a une sorte de nouvelle intelligence émotionnelle justement qui s'instaure, comme un renouveau émotionnel, un détachement par rapport aux émotionnels qui ne vous empêche pas de vivre les situations pleinement et qui mène à une stabilité émotionnelle et mentale. Et donc, ça, c'est l'effet collatéral d'une purge. À la fin, on arrive à ça. Donc, du coup, si vous cultivez la paix intérieure, vous allez favoriser l'atteinte de cet état-là. Alors, comment le faire? Les exercices en or, la méditation, et parmi la méditation, le yoga nidra. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Car nous avons fait toute une série de podcasts destinés exclusivement à la compréhension des émotions. Ce sont les podcasts encore du début de cette chaîne, 5, 6, 7 et 8. 4 épisodes destinés à comprendre la méditation, comment méditer, est-ce que méditer c'est difficile, est-ce que méditer c'est risqué, vraiment un tour d'horizon complet si vous n'avez jamais médité pour vraiment y aller à fond, en toute tranquillité, en pleine compréhension de ce que cet exercice absolument extraordinaire, confirmé, ratifié dans ses bénéfices par la science, tout ce que cet exercice peut vous apporter. Et le yoga nidra, qui est pour moi une découverte assez tardive, que je dois à notre magnifique Julie Gray, et que vous pourrez découvrir aussi en conversation avec elle dans l'épisode 52 de cette chaîne. C'était l'épisode où nous fêtions le 1 an de notre chaîne où nous sommes allés à la découverte du yoga nidra. Vous avez là 2 énormes clés pour cultiver votre paix intérieure au quotidien. Une autre façon de la cultiver, ce sera le lien avec la nature. Alors pour certains, il suffira d'aller se promener en forêt, d'aller faire un trek ou une randonnée ou quoi que ce soit, aller dans le parc. Il y a un exercice parmi tout ça que moi j'adore particulièrement parce qu'il apporte énormément d'effets bénéfiques collatéraux et c'est embrasser les arbres. Mais je vous laisse juste avec ça, on pourrait faire un épisode entier, voire même plusieurs épisodes sur les bénéfices de cet exercice-là. Mais je vous laisse juste avec peut-être la découverte, la surprise de ce que ça peut vous apporter. Mais ce que je vous assure, c'est que ça va cultiver votre paix intérieure d'une façon dont vous ne pouviez jamais imaginer. En plus de vous apporter un lien superlatif au vivant et une compréhension complètement nouvelle de votre lien à vous-même, à la vie, à la nature et au vivant. Tout ça juste en embrassant un morceau de bois. Et pour finir, l'étape 3, pour pratiquer la paix intérieure, pour tous ceux et celles à qui ça intéresserait, vous avez aussi de nombreuses pratiques spirituelles qui vont vous permettre aussi de cultiver la paix intérieure. Donc comme vous savez, dans cette chaîne, moi je suis plutôt féru de la... Alors féru, je défends une spiritualité laïque, ça ne veut pas dire que j'ai rien... absolument rien contre les religions et quoi que ce soit, mais pour être le plus inclusif possible dans cette chaîne-là, je vais surtout nommer des exercices de pratiques spirituelles qui sont des approches laïques que l'on peut adapter ou adopter suivant le courant religieux ou philosophique que l'on aura décidé d'adopter. De cette façon, mon approche est le plus inclusive possible. Et dans ces pratiques spirituelles, il y en a 3. Il y a la pratique de la gratitude. Là, encore une fois, vous avez un épisode qui était totalement dédié à la puissance de la gratitude, prouvée par la science, et comment profiter de la puissance de la gratitude. C'est l'épisode 50 de cette chaîne-là. Encore une fois, je refais cette parenthèse. Il le faut parce que je ne l'ai pas fait suffisamment au début de l'épisode. Abonnez-vous. Mettez-nous une note et des commentaires sur Apple Podcast ou Spotify. Plus on a d'étoiles et de commentaires positifs, plus cette chaîne sera promue auprès de d'une audience susceptible d'aimer ces contenus-là. Et parlez-en autour de vous. Si tous les épisodes que je vous ai cités, vous ne les connaissiez pas, c'est que vous êtes nouveau dans cette chaîne. Alors vraiment, abonnez-vous parce qu'il y en a d'autres encore meilleurs qui nous attendent pour les semaines et les années à suivre. Nous ne sommes pas prêts de partir de si tôt. Ça, c'est pour la gratitude. Deuxième point, c'est les pratiques d'empathie. Donc, il y a beaucoup de pratiques méditatives, entre autres, qui vous accompagnent à l'ouverture du cœur et le partage de votre énergie d'amour. Et les troisième types d'exercices qui sont très puissants, qui sont des pratiques aussi spirituelles, c'est l'exercice du pardon. Dans tous les courants, il existe des exercices de pardon. Et il y en a un en particulier qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années, qui nous vient des traditions hawaïennes, et c'est le Ho'oponopono. Avec tout ça, vous avez de quoi cultiver la paix intérieure. Et maintenant, avant de partir, tout simplement, on va poser le cadre dans lequel nous nous sommes inscrits pour comprendre comment tout ceci est arrivé dans nos vies. Car ce que cet épisode nous permet de comprendre, c'est que le développement personnel mène à la découverte et la libération de soi. Et que dans ce chemin-là, ce que l'on fait, entre autres, c'est gérer les mémoires émotionnelles vives. Ce qui nous permet d'ouvrir les portes de l'étape numéro 2, le développement intérieur, ou ce que l'on pourrait appeler aussi de l'éveil du potentiel. Et à travers ce développement intérieur, on apprend à gérer, entre autres, des vidanges ou purges émotionnelles, pour atteindre une nouvelle paix intérieure. Et c'est cette nouvelle paix intérieure qui ouvre les portes éventuellement d'un nouveau développement que l'on appelle développement spirituel. Et pour un dialogue apaisé avec le soi profond et aller grâce à ça à la découverte des voies V-O-I-E-S et des voies V-O-I-X de l'essence pure de l'être. Sous toile de fond d'émotions, voici les trésors qui se cachaient derrière cet épisode. Chers amis, merci d'être restés avec moi jusqu'au bout une fois de plus. Une heure d'épisode dense, plein de contenu pour nous permettre de comprendre un phénomène émotionnel et une intelligence émotionnelle de notre corps dont on n'entend pas souvent parler. Il a été question de découvrir ni plus ni moins qu'un réservoir émotionnel qui existe au fond de nous et qui nous permet de gérer et de vivre les trop-pleins émotionnels sans que ceux-ci viennent affecter la santé de nos organes et notre équilibre intérieur, notre bien-être. Nous avons parlé des souvenirs, des mémoires classées, des mémoires vives, mais aussi nous avons parlé de l'effet que peut avoir une thérapie et après la thérapie, le deuxième effet qui se coule, que l'on peut subir, qui est celui d'une purge émotionnelle. Tout ceci n'est ni plus ni moins qu'une réalité de ce fameux réservoir émotionnel. Mais ces purges émotionnelles ont le danger potentiel d'un piège dans lequel on pourrait tomber, qu'il faut éviter à tout prix. Et pour cela, nous avons découvert des outils, des façons de faire, trois étapes pratiques pour se permettre de traverser une purge émotionnelle et atteindre un état qui nous permette de cultiver la paix intérieure. Je suis Iker Aguirre et ceci est votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify, ou tout simplement à recommander cette chaîne aux gens qui vous sont proches. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte, pour aller au cœur de l'humain et de son potentiel.